Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le vrai problème, ce n'est pas de savoir si nous vivrons après la mort, mais si nous serons vivants avant la mort. Cette citation du célèbre mystique suisse Maurice Zindel, citée dans l'ouvrage de notre invité de ce matin, aurait pu servir de sous-titre à son livre. Un invité qui côtoie au quotidien la mort, non qu'il soit un médecin urgentiste, quoique, notre invité est, si je puis dire, une sorte de croque-mort en chef. Et loin de le déprimer, figurez-vous, il en tire au contraire une grande paix et une sorte d'urgence existentielle. Vivre en mortel, c'est le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, et comme souvent, c'est aussi le titre du livre de l'invité avec qui je suis à l'occasion de ce pèlerinage du rosaire. Je rappelle, nous sommes ici en direct pendant 3 jours pour ce pèlerinage emmené par la famille dominicaine depuis 1908 et qui cette année attire à nouveau 10 000 personnes. Je dis à nouveau parce qu'évidemment, il y avait eu une pause l'année dernière. Et quelle pause! Et ça réjouit le sanctuaire et la ville de voir ces personnes qui sont à nouveau fidèle à ce rendez-vous. Notre invité de ce matin, c'est donc Christian de Cacret. Christian de Cacret, vous êtes directeur du service catholique des funérailles, créé par le cardinal Lustiger pour le diocèse de Paris, on y reviendra, et l'auteur de cet ouvrage paru aux éditions Salvator. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vivre en mortel, je me suis permis de mettre une petite pique, une petite pointe d'humour dans cette introduction pour ne pas faire fuir les auditeurs, car en fait, et peut-être hélas, on le découvrira au long de l'émission, parler de la mort, ça fait parfois fuir.
En tout cas, vous avez été d'une pertinence que je veux saluer tout de suite, parce que dire des gens qui, comme moi, sont confrontés à la prise en charge des endeuillés et donc des morts, c'est vraiment une des dernières postures dans notre société d'urgentiste. Vous savez comme moi que la médecine, beaucoup de métiers liés aux soins ont perdu l'habitude de répondre au téléphone lorsque le cabinet est fermé. Nous pas. Nous, on a vraiment. Et puis alors,
non seulement... Vous avez un service de 24/24
pour... Oui, puis le samedi, le dimanche. Et puis, si vous voulez, ça rend ce que je vous dis là, et ce que vous avez donc dit en parlant d'urgentiste, rend compte d'un état d'esprit très commun aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens veulent être servis vite parce qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas la culture de ces circonstances-là. Donc, nécessairement...
On ne sait plus accompagner les morts à la maison.
Voilà.
Alors, on va y venir. Chaque chose en son temps. Vous avez plein de choses à dire. Je voudrais qu'on commence, au risque peut-être de vous lasser, mais vous commencez votre ouvrage comme ça. Et puis, vous avez dû être pas mal interviewé au moment de la crise, de la pandémie qu'on a traversée. Vous commencez dans votre préface, donc, sur la crise de la Covid-19. Et puis, vous avez... Non, pardon. C'est pas votre préface, c'est celle de Marie de Henzel. Donc, vous avez Marie de Henzel qui vous a préfacé. Donc, on va dire une femme fort connue parce qu'elle défend, on va dire, bec et ongle les soins palliatifs en France. Et puis, elle avait justement écrit un livre au moment de la crise sanitaire qui a été un grand coup de gueule, pour le coup très relayé. L'adieu interdit, si je ne me trompe pas. Si on commence par ça, pourquoi est-ce que vous avez choisi Marie de Henzel? Aussi à cause de son coup de gueule ou...
Oui, j'avoue que pendant que nous étions sur le terrain avec mes collègues au moment de la crise sanitaire, j'entends de la première, du premier confinement, nous étions très impressionnés par le courage de cette femme qui avait, à l'époque, osé remettre en cause l'extrémisme de certains comportements dans l'ordre des interdits. Et c'était pas évident. Nous sentions qu'il y avait des excès, notamment dans le domaine funéraire, où on voyait les établissements se fermer les uns après les autres. À Paris, on voyait à Rungis, dans ce haut lieu du stockage des denrées alimentaires, s'ouvrir un grand funérarium. Autant de choses qui heurtaient nos consciences, mais on n'osait pas trop contester non plus ce qui était édicté, parce que ceux qui avaient la charge de maintenir la santé publique avaient fort à faire. Mais nous avons trouvé que cette femme avait vraiment du courage d'aller sur cette ligne de crête qui, sans contester ces normes, mais en dénoncer les effets induits qui, eux aussi, seraient mortifères. J'entends l'éloignement des proches d'un défunt au moment de sa fin de vie et de la fermeture du cercueil. Tout ça, à l'évidence, blesse l'homme, blesse l'humanité en profondeur. Et bon, c'est l'enjeu de la balance, si vous voulez. Quel est le moindre mal? Eh bien, je pense que le moindre mal eût été tout en édictant des normes restrictives, mais d'inciter ceux qui étaient chargés de leur application à plus d'humanité.
Alors, est-ce à dire que vous reprenez, parce qu'après, dans votre propos, alors c'est probablement aussi votre tempérament, et puis la charge aussi qui est la vôtre, je ne sais pas, hein, mais vous êtes moins incisif que Marie de Henzel à propos de cette crise, et puis ce n'est pas d'abord le premier objet de votre livre. Bon, quand même, vous dites que ça a été rapidement assez effrayant, vous parlez un peu d'expérience carcérale pour certains malades aussi en fin de vie. Vous rappelez en Italie qu'on avait pu voir sur la porte de certains cimetières, je crois, ou certains hôpitaux.
Ici, les cimetières.
Cimetières. Ici, personne ne rentre sauf les morts. Quand Marie de Henzel dit qu'il y a eu vraiment des conduites indignes et que c'était une régression civilisationnelle, vous les faites vôtres avec du recul, cette expression.
Je voudrais réagir à ce que vous dites de mon propos. C'est vrai que mon livre intervient un an plus tard et je pense que beaucoup de choses ont été dites sur l'analyse de ce qui s'est passé au moment de cette crise. Et puis je dirais qu'il y a une question aussi de statut. Mon engagement est celui du service de terrain, ce qui ne veut pas dire que je suis condamné à me taire, loin s'en faut, mais j'ai toujours eu pour règle d'éviter des postures de dénonciation frontale, que ce soit au sein de au milieu de mes confrères ou a fortiori vis-à-vis des pouvoirs publics. Je crois qu'on a tous intérêt à fonctionner ensemble. Mais qu'il y ait une Marie de Henzel qui, pour le coup, aujourd'hui est plus dans une posture, je dirais, d'analyse et de donneuse d'alerte, on pourrait dire, je lui reconnais ce mérite d'avoir pris des risques de ce point de vue-là à ce moment-là. Le risque de se faire, j'allais dire, retoquer par les pouvoirs publics en disant « mais vous savez pas de quoi vous parlez ». Non, elle a trouvé le ton juste et elle a été très utile dans ce rôle-là pour éclairer les consciences.
Alors, deux, trois mots peut-être, on va pas y passer toute l'émission, mais quand même, parce qu'on a pu lire un certain nombre de choses, mais tout le monde n'a pas vécu ça au plus près comme vous. Vous le racontez un petit peu au début de votre ouvrage. Vous trembliez un petit peu au début. Hein. Vous avez vos salariés qui vous appellent en disant « j'ai pas de masque, comment je fais ?»
Complètement. Moi, j'ai un lundi 22 mars, mettons, qui est gravé dans ma mémoire, où je réunis toute mon équipe parisienne et puis les autres bureaux au téléphone. C'est vraiment un conseil de guerre, c'est-à-dire qu'on est confronté à une incertitude sur la dimension du risque que nous allions prendre dans les heures qui suivaient, et où mes collègues se tournent vers moi en me disant « qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on reçoit les familles dans les bureaux ? Est-ce qu'on organise des célébrations d'obsèques ?» On était honnêtement dans une forme de peur-panique, ça je le reconnais. Et moi, la première famille qui m'appelle et que je vais suivre, je passe un peu toutes les étapes de cette incroyable déréliction collective, c'est-à-dire « nous ne viendrons pas vous voir, nous avons la fièvre, nous sommes malades parce que s'étant occupé du père mort, le portant dans ses bras, bah, tout le monde dans son entourage proche était tombé malade et n'irait donc pas assister aux obsèques. Le célébrant pressenti qui me dit « écoutez, c'est pas raisonnable, enfin en gros, on va pas tous se passer cette maladie ». Voilà, une espèce de chaîne de peur collective et individuelle qui est quelque chose d'abyssal. Moi, je n'ai jamais vécu ça de mon existence et je dois dire d'avoir traversé ça et en plus en responsabilité d'équipe, ça a été très, très, très fondateur. Ma grande peine, je le dis franchement, c'est que engagé sur ce front, eh bien malheureusement, je suis tombé malade et j'ai dû accepter humblement d'être retiré du service pendant près de 3 semaines. Ça a été une frustration atroce. J'en ai pleuré de rage en me disant mais comment est-ce que je ne suis pas au milieu de miens et condamné à ce lit et à cette fièvre quotidienne.
Alors on peut aussi le préciser, c'est-à-dire que vous êtes le directeur, mais en fait quand on vous lit, vous êtes aussi souvent en train d'accompagner les familles.
Ben, on a la culture du métier, c'est vrai. On est soucieux de...
Vous faites les deux, quoi.
C'est... Oui. Voilà. Ben, pas dans les mêmes proportions qu'au début, hein, mais parce qu'avec des équipes à gérer, c'est difficile d'en faire autant. Mais je crois qu'il faut, dans des métiers comme celui-là, continuer à... Vous savez, c'est pape François qui dit ça, c'est aux prêtres, avoir l'odeur du troupeau. Si vous vous en éloignez trop, il y a un moment où vous n'êtes plus le bon berger dont ils ont besoin.
Alors... À propos de cette crise de la Covid, vous parlez aussi de l'autre versant, c'est-à-dire que à vous lire aussi, vous avez vu des familles d'une extraordinaire dignité. Dans ce contexte, ce qui m'a le plus frappé et profondément touché, c'est non seulement la dignité des proches face à ce surcroît de peine que les circonstances leur infligeaient, mais plus encore leur faculté de rebond. Est-ce que vous avez des histoires comme ça que vous citez, que vous pourriez nous partager ?
Oui, beaucoup, mais je pense que la première famille dont je parlais à l'instant est celle qui m'a le plus impressionné parce que impossible pour eux de se déplacer, pas de rassemblement possible. Enfin, vraiment, heureusement, il y avait vaguement un cousin qui serait à l'inhumation, mais rien de plus, pas de passage à l'église, alors qu'on était en présence d'un de ces hommes qui avait été un engagé de l'église, comme on en connaît, heureusement. Et le lendemain de cet effrayant vide, je dirais, rituel, je reçois un mail avec un lien. Et dans ce lien, je vois un PowerPoint et toute une liturgie que cette famille a construite et vécue en visioconférence, où tour à tour, chacun des membres de la famille, et il y en avait un peu répandu sur la planète entière, a pu apporter sa pierre à l'édifice rituel qui consistait à dire au fond quel était l'héritage humain et spirituel de leur père et grand-père. C'était magnifique. C'était une créativité abyssale et j'ai compris qu'ils avaient passé 2 heures comme ça en ligne tous ensemble à vivre quelque chose d'une richesse incroyable. Alors, être passé 3 jours avant de cette espèce de constat épouvantable en se disant on va rien pouvoir vivre ensemble, on est condamné en plus avec cette fièvre un peu mortifère parce qu'on ne sait pas où on va du point de vue de la maladie, et découvrir qu'au milieu de ça a poussé cette fleur d'inventivité liturgique, admiration. Et ça n'a pas traîné, ça, c'est venu très vite. Alors, j'en fais pas une généralité, mais je me suis senti appelé à témoigner de ce type de comportement.
Alors, on y reviendra quand même, parce que évidemment, vous dites que de pas pouvoir voir ne serait-ce que le visage, hein, vous avez une expression, c'est l'adieu au visage d'un proche, c'est probablement très compliqué après de faire son deuil, que c'est une étape très importante. Je voulais juste qu'on parle un petit peu de vous avant de faire une première pause, parce que donc votre ouvrage a un ton très personnel, et on peut lire en vous lisant, vous avez été en fait confronté assez tôt à la mort. Alors, ce n'était pas directement dans votre famille, mais vous racontez un épisode comme ça quand vous étiez petit, une famille proche qui perd, enfin, 2 fois c'est arrivé. Et puis, une fois, vous vous tenez à la fenêtre, en fait, intrigué par cette mort, alors que votre mère est un peu évasive sur le sujet. Vous pouvez nous raconter cet épisode?
Oui, c'est très vieux, c'était en 1968. Alors, j'ai beau être une vieille branche, je n'avais que 6 ans, mais c'est gravé dans ma mémoire. Il y avait une famille avec 3 garçons, comme ma fratrie, et nous avions appris que l'un des enfants était décédé. Et pas de souvenir d'obsèques, pas de participation à un rituel, sans doute parce que déjà à cette époque-là, on mettait les enfants à l'écart pour les protéger. En tout cas, je me souviens avoir regardé, mais à m'en user les yeux, la maison du mort, comme une espèce de lieu incroyable où s'était passé quelque chose. Comme on m'en parlait pas, eh bien, je fantasmais sur la dramaturgie de cet événement qui était de fait dramatique. Mais comment vous dire, il y avait dans ce regard insistant quelque chose de désespéré, quelque chose qui ne se canalisait pas. Il n'y a pas cet effet de catharsis qui est la participation au rituel d'adieu. Donc je me souviens de cette séquence, et j'en ai d'ailleurs reparlé avec mes parents qui ne m'ont pas contredit. Et c'est étonnant comme c'est resté gravé dans ma mémoire de ce point de vue-là. Quelque chose de malsain. Vous savez, quand on cache quelque chose dans l'existence, vous le savez comme moi, on lui attribue quelque chose, une dimension malsaine. Pourquoi le cache-t-on ? Il y a un loup, il y a quelque chose dont on ne veut pas parler, qu'est-ce qu'on veut cacher? C'est ça au fond la question qui est posée du point de vue du rapport à la mort. Pourquoi la cacher? De quoi a-t-on peur? Avec les enfants, mais pas uniquement avec les enfants. Pourquoi avons-nous peur de laisser cette parole que porte toute mort résonner dans nos vies, quel que soit l'âge que nous avons? Il y a quelque chose de contemporain dans cette attitude qui n'a pas cessé de me questionner, et je dois dire que la crise sanitaire est venue s'ouvrir cette porte, enfin, et raisonner ce questionnement. Alors, je ne sais pas ce que nos contemporains en feront.
On y reviendra, si ça ne vous embête pas. Si on reste juste sur vous et votre parcours avant... J'ai oublié de... Ah non, je l'ai dit quand même au début de l'émission, donc vous êtes directeur du service catholique des funérailles. Il y a un autre événement parmi ceux que vous citez. C'est aussi une mort concomitante à votre mariage. Alors, c'est assez intime, mais comme vous l'écrivez, je me permets d'en parler. Vous pouvez nous expliquer ce qui est arrivé et puis pourquoi vous avez tenu à en parler dans cet ouvrage.
C'est le vrai drame. Et malheureusement, l'expérience de mon métier m'a montré que du point de vue de l'intensité dramatique, la mort n'a jamais fini de nous surprendre. Il se trouve que 4 jours avant notre mariage avec mon épouse, sur le chemin de cette noce, la sœur de ma belle-mère, donc la marraine de ma femme, est morte. Elle était hôtesse de l'air dans le DC-10 du TA qui a explosé parce que la bande au dictateur Kadhafi avait déposé une bombe à bord. Et donc nous avons vécu cet événement ô combien heureux de notre union dans un contexte de deuil épouvantable et avec cette espèce de dualité permanente qui s'exprimait à travers les messages que nous recevions entre...
Je vais les citer, hein, de tout cœur avec vous dans le terrible drame qui vous touche et puis après, je ne sais pas si c'était déjà des SMS à l'époque, dans la joie de l'heureux événement du mariage d'année de Christian.
C'était bien pire, c'était dans les années 80 et c'était des téléx qu'on vous téléphonait. Donc on était dans le sud-ouest à Agen, c'est là où nous sommes mariés, et il y avait cet employé des PTT qui téléphonait avec son bel accent et qui nous lisait tour à tour un message pour nous féliciter et l'autre pour nous faire part des condoléances. Et même à la célébration de notre mariage, à la sortie, l'assemblée qui généralement est joyeuse était figée dans une espèce d'incertitude sur la bonne tonalité. C'était très lourd. Et pourquoi j'en ai parlé ? Eh bien parce que cette femme, qui était déjà veuve, mais qui s'était remariée avec un homme que je ne connaissais pas à l'époque, mais dont j'ai fait la connaissance au moment des obsèques de son épouse, qui ont été célébrées dans la même église que celle où nous sommes mariés 15 jours après, cet homme était un homme qui travaillait dans les pompes funèbres. Et c'est lui qui m'a appelé à travailler avec lui, et c'est par son intermédiaire que j'ai découvert ce métier. Donc j'ai toujours... on a tous notre histoire sainte et comment les choses se sont imbriquées. J'ai toujours relié mon engagement dans les pompes funèbres à ce deuil. Voilà, je trouve que ça a du sens.
Et puis, quelques années après, donc, vous avez été appelé par le cardinal Lustiger pour fonder le service catholique des funérailles. On y reviendra peut-être après, mais est-ce que vous pouvez dire en un mot ce que c'est et ce que vous avez demandé, le cardinal Lustiger ?
Alors, le cardinal Lustiger, ça a été une rencontre, celle d'un homme dont on a reconnu à maintes reprises les qualités de visionnaire et de sa sensibilité à la compréhension de la société dans laquelle nous évoluons. Et donc, c'était un homme qui, secrètement, espérer que dans le domaine funéraire, on allait un jour prendre une initiative d'église afin non pas de bousculer ce champ et de dire vous êtes tous mauvais, on va faire mieux à votre place, mais plutôt de faire au milieu des autres différemment. Et il se trouve que moi, je portais au long des années passées dans le milieu funéraire, qui a été des années de service heureux et loyal de ma part, mais je portais cette petite voix intérieure qui me disait « Christian, il y a peut-être autre chose à faire, sans savoir trop quoi ». Et puis, il se trouve qu'à la fin d'un été, portant ce questionnement intérieur, je m'en suis ouvert à mon meilleur ami qui se trouve être trappiste. Et figurez-vous que cet ami trappiste en a parlé à un vicaire général du diocèse de Paris qui se trouvait à la trappe pour de toute autre raison et qui a aussitôt dit « Ah, je veux voir ce monsieur ». Et voilà, la mèche s'est allumée. Vous voyez comme quoi les voix du Seigneur sont souvent non seulement impénétrables, mais en plus un peu en forme d'arabesque parce que...
Et puis, quand on connaît un tout petit peu le cardinal Lustiger, quand il avait une idée, après, alors, voilà. Ça suivait derrière.
Après, j'ai sauté sans parachute, c'est vrai. Je me suis laissé appeler...
Je rappelle le titre de votre livre et puis on va continuer de le parcourir ensemble. On va dire c'est presque une promenade au milieu de la mort, et j'ai envie de dire, et on en ressort bien vivant. C'est à continuer à parcourir avec nous ce livre. C'est « Vivre en mortel » paru aux éditions Salvator. Thank you.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vivre en mortel, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, deuxième jour en direct depuis nos studios à Lourdes, à l'occasion du pèlerinage du Rosaire 2021. Il est toujours temps de rejoindre ce pèlerinage. Ici, 10 000 personnes arpentent le sanctuaire et ses environs avec une ambiance festive qui fait du bien à tout le monde, on l'imagine. Et notre invité de ce matin est Christian de Cacré, qui est de passage ici, pour donner une conférence sur un livre qui vient de paraître, son dernier livre, Vivre en mortel, paru aux éditions Salvator, que l'on parcourt ensemble. Alors, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, du fait que la mort est escamotée, qu'elle a presque disparu de notre société, et en même temps c'est une réalité tellement grave qu'on se dit qu'il est bon d'en parler sans cesse. Vous commencez un chapitre qui aborde cette question de la disparition de la mort, en fait, par un contre-exemple que vous tirez d'une région des hauts plateaux de Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là-bas ce qui se passe et pourquoi vous avez commencé par cet exemple ?
J'ai commencé par cet exemple dit du retournement des morts. D'abord parce que symboliquement, pour nous, occidentaux, il y a quelque chose d'épouvantable, enfin, d'aller réouvrir les sépultures.
Alors, expliquez ce qu'on fait, peut-être.
Mais en fait, régulièrement, les proches se retrouvent au cimetière pour réouvrir, alors on dit retournement, mais c'est pas tellement l'enjeu, mais c'est réouvrir la sépulture pour voir un peu l'état dans lequel est sont les restes mortuaires. Et donc, derrière ce qui peut nous paraître morbide, en réalité, il y a quelque chose de très fort du point de vue du deuil, c'est-à-dire actualiser notre deuil. Si vous voulez, si je transpose ce rituel dans ce qu'il a de très incarné, je dirais que c'est un peu comme les messes de bout de l'an. Vous voyez, ces rituels dans l'Église catholique qui sont perdus pour beaucoup, encore qu'autour du 2 novembre, il se vit des choses, notamment. Mais c'est nous sommes en deuil le jour où l'un des nôtres est mort, mais évidemment qu'un an, 3 ans, 10 ans après, les choses vont évoluer. Alors, les Malgaches vont le concrétiser en constatant jusqu'à la disparition complète.
Parce qu'ils font quoi ? Ils font quoi à chaque fois qu'ils ressortent les morts, en fait ?
Ils réouvrent la sépulture et puis on range un peu ce qu'il y a dedans. Enfin, une espèce de savoir. Vous savez, le rapport au reste mortuaire, nous, c'est très à distance. Quand il y a des exhumations, c'est un peu... il ne faut pas y aller. Mais il y a beaucoup de civilisations, y compris proches de nous, en Europe. Par exemple, en Roumanie, il y a des régions où, avant d'enterrer quelqu'un, la famille va elle-même aller creuser la tombe familiale, en sortir les restes qu'elle va trouver, les laver avec un mélange de vinaigre, de vin, etc., pour les replacer dans un petit ossuaire, pour faire de la place pour le nouveau mort, si je puis dire. Ce qu'on va déléguer chez nous à des tiers et qu'on va appeler réduction de corps. Donc nous, on a déritualisé tout ça, mais ça reste quelque chose de très fort. Le deuil n'est pas une permanence dans la façon dont il se vit, de même que les restes mortuaires évoluent dans le temps, si vous voulez. Tout ça marche de pair. C'est un lieu d'incarnation, la mort. C'est ça qu'on a beaucoup perdu. Le corps mort, on ne peut pas l'évacuer. On tente de le faire dans la technicisation, dans l'hygiénisme contemporain. Mais à trop l'éloigner, il revient. Il est revenu au cours de... par le manque, par les interdits, par la frustration. Mais ça reste quelque chose de très fort, cette dimension de l'incarnation. Et par exemple, je parlais il y a peu de temps de la crémation et du devenir des cendres. Quelqu'un me disait, est-ce qu'on peut célébrer en présence d'une urne ? Je leur expliquais que si l'Église était réticente à ça, c'est que, imaginez la scène, l'urne sur l'autel, et on va parler du défunt au défunt en s'adressant à l'urne. Mais non, ça ne fonctionne pas. Quand le corps est présent, on peut le faire. Vous voyez, c'est...
Alors, question de Catherine, moi j'ai une question. Vous ne l'abordez pas dans votre livre, mais vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage. Hein. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle La mort confisquée, paru aux éditions CLD en 2002. Et puis moi qui suis un peu dans le métier, je ne vous avais jamais interviewé, mais je vous avais quand même vu souvent dans la presse, parfois même celle à laquelle je participais. Ça date de quand, en fait, cette mort escamotée ? Il y a une grande bascule, c'est quoi ? C'est l'après-guerre ?
Alors, il y a des historiens qui le datent de l'après-première guerre mondiale. Moi, je crois que le grand basculement, c'est l'après-seconde guerre mondiale. C'est-à-dire ce qu'on a appelé la période des 30 glorieuses. C'est vraiment une période, et je le vois, si vous voulez... au niveau du funéraire, où, par exemple, les hôpitaux vont transférer leurs responsabilités post-mortem à des établissements privés. Sur la Côte d'Azur, par exemple, c'est flagrant. On a véritablement privatisé ce qui était une chambre mortuaire, c'est-à-dire de l'hôpital, en natané, comme on dit dans le Midi, privé.
Mais on aurait pu faire une chambre mortuaire dans des cliniques privées. C'est plutôt une question culturelle ou civilisationnelle, non ?
C'est-à-dire que le monde des soins a tenté de se débarrasser de la mort. Et ça, cette tension entre les progrès de la médecine, et dont on se félicite tous, qui ont permis de rallonger la vie, de guérir des maladies, et de plus en plus, et encore une fois, loin de moi l'envie de critiquer cette réalité, mais chemin faisant, à repousser la mort et sa réalité charnelle, qu'est la gestion de la dépouille, hors de son champ. Et c'est cette tension impossible qui aujourd'hui encore colore le terrain qui est celui des obsèques, parce qu'on continue à mourir dans les hôpitaux, on continue à garder les corps dans les hôpitaux, et on continue à y vivre cette tension. La dernière mise en bière à laquelle j'ai participé, je vous assure, avec l'équipe, on a mis un bon quart d'heure à trouver l'endroit où était le corps. Parce que c'était impossible de le trouver dans cette espèce d'écheveau. En général, on sait que c'est plutôt près des... Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais des lieux... des poubelles, quoi. Enfin, bon, je fais pas une généralité. Non, mais vraiment, il faut voir ces lieux pour comprendre à quel point cette alliance ou cette conciliation entre le lieu du combat de la mort et le lieu de son accueil et de son accompagnement est difficile.
Alors peut-être pour être tout à fait concret, aujourd'hui, comment ça se passe par exemple à l'hôpital ? Les corps sont mis où ou alors ils...
Alors dans les hôpitaux, la règle c'est que lorsque le décès survient, le corps est maintenu dans la chambre pendant quelques heures de façon à permettre à la famille de venir le retrouver. Le législateur avait prévu une période de 10 heures qui n'est pas respectée de cette manière-là, mais enfin suffisamment en tout cas pour permettre la présence des proches. Et ensuite, le corps est descendu dans la chambre mortuaire où il peut être revu. On ne dira pas veiller parce que l'établissement ne le permet pas du point de vue de la durée, mais à minima être revu.
Est-ce qu'on a le droit d'avoir un mort chez soi, comme ça se faisait autrefois dans les campagnes ? On peut demander à avoir son grand-père qui revient à la maison quelque part ou...
Absolument. Dans un délai de 48 heures maximum après le décès, le corps peut être ramené à la maison et maintenu.
Et combien de temps on peut le garder chez soi ?
Après, c'est un enjeu d'hygiène corporelle, donc il ne faut pas que ce soit prolongé trop longtemps, mais avec des soins de thanatopraxie, on peut garder un corps jusqu'à 5-6 jours sans altération majeure.
Alors, vous dites aussi la chose suivante, ça m'a frappé, je relève à ce propos la concomitance dans l'histoire contemporaine entre le bouleversement du rapport à la mort et le bouleversement du rapport à la nature. Est-ce que vous pouvez expliquer ?
Ben, je pense que on a une façon de consommer la terre comme on consomme les jours. Je sais pas, je vois un parallèle dans ces attitudes contemporaines qui ne sont pas, je trouve, suffisamment ajustées au rythme du vivant. C'est vrai pour la nature et c'est vrai pour le rapport à la mort. Il y a quelque chose, je suis frappé par exemple de constater la difficulté qu'ont certains vivants à arrêter les pendules, leurs pendules, leur rythme de vie au moment d'un décès. Ils sont pourtant à ce moment-là convoqués. Je sais bien que la mort ne prévient pas et que c'est donc une perturbation, on va le dire. Mais combien de fois on me parle de l'impossibilité liée à un voyage, liée à des examens des enfants, etc. Comme si... pour paraphraser le titre du dernier James Bond, mourir peut attendre. Non, mourir s'impose à l'être humain de tout temps, et sa capacité à répondre à cette convocation dit quelque chose de profond sur le rapport à la vie.
Alors venons au cœur de votre propos, parce que j'espère que vous ne m'en avez pas voulu de vous appeler un croque-mort en chef, mais loin de vous déprimer à vous lire, au contraire, la mort, on va dire, petit à petit ou de plus en plus, vous donne la vie, c'est ce qu'on peut voir dans votre propos. Vous avez une expression parmi d'autres, au contraire, si j'entre dans la dynamique vivifiante de la finitude terrestre, l'urgence des choix existentiels me met en marche. Voilà, vous dites plusieurs fois qu'il y a une forme d'urgence existentielle au fond des...
Oui.
à force de fréquenter la mort qui s'installe.
Oui, je tiens à préciser pour nos auditeurs, parce que bien sûr, parmi eux, il y a des gens malades, des gens confrontés à la fin de vie, des gens confrontés au deuil. Et peut-être que ça blesserait leur parcours de vie que d'entendre ce croque-mort en chef, zélateur de quelque chose qui blesse l'humanité. Je ne suis pas dans cette posture du tout. En revanche, parce qu'il y a une dimension de la mort qui est celle de la sagesse de vie et qui me semble faire cruellement défaut à nos contemporains. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, je n'attends pas ma fin de vie, je n'attends pas le deuil pour être questionné par le fait que je suis un mortel. C'est-à-dire que ça bouleverse mon rapport à la vie.
Voilà, vous particulièrement, vous y êtes confronté, donc ça questionne votre rapport à la vie.
Mais on n'a pas besoin de travailler dans les pompes funèbres pour vivre ce que je suis en train d'évoquer. Je veux dire, vous êtes comme moi destiné à mourir.
On y pense moins, c'est...
Peut-être, mais qu'est-ce qui nous empêche d'y penser davantage ? De quelle manière pouvons-nous y penser davantage ? Ça n'a rien de morbide. Vous avez dit que j'étais un homme des pompes funèbres qui avait l'air de le vivre bien et d'être dans une dimension d'intensité de vie. Oui, j'en témoigne, mais je ne fais pas un lien exclusif entre mon activité professionnelle et cet état d'être. Au contraire, peut-être que je suis appelé à témoigner de quelque chose et à éveiller la conscience contemporaine à mon petit niveau de ce point de vue-là. Mais en attendant, il y a beaucoup de gens autour de nous qui, dans la parfaite santé, dans une forme d'épanouissement, etc., vivent quotidiennement la conscience que la vie peut leur être enlevée, vivent la conscience qu'il n'y a pas une minute à perdre pour goûter en profondeur cette vie, tout ce qu'elle nous offre, ces relations, et se dilater, j'ai envie de dire se dilater. Et pourquoi c'est un enjeu essentiel ? Eh bien parce que il sollicite notre liberté. Moi, quand j'éloigne, c'est ce que j'appelle la phrase que vous citiez là, quand je m'éloigne de cette conscience, souvent c'est synonyme d'un affadissement de mon quotidien. Et quand au contraire, je reviens dans cette conscience de ma finitude, alors je ne peux pas vous dire comment, etc., mais c'est des choses qui habitent ma pensée, eh bien je retrouve cette énergie, ce goût de vivre et de construire et de choisir, de bâtir, de faire quelque chose de beau de ma vie.
Est-ce que vous pouvez dire que là, vous arrivez à identifier, parce que vous faites quand même un travail de relecture dans cet ouvrage,
oui.
La manière peut-être, il y a eu des déclics au long de votre parcours professionnel au sein du service catholique des funérailles, quand vous avez une autre expression, cette finitude heureuse.
Alors, sur le plan professionnel, et puis après j'évoquerai sur le plan spirituel, mais sur le plan professionnel, oui, c'est-à-dire à être auprès de ces familles sur ce parcours rituel, hein, avec ces trois étapes successives, et de communier avec une certaine frustration de devoir les quitter, mais de communier à la porte du cimetière à cette énergie qui les habitent parce qu'ils ont rendu un hommage à leurs défunts, parce qu'ils ont été ensemble dans un collectif pour vivre ça et de belles manières et qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait ensemble, eh bien ça pour moi c'est une énergie vivifiante. Maintenant, pour aller plus loin sur le plan plus intime, je raconte que le parcours de Saint Ignace à travers ses exercices spirituels qui m'a été proposé il y a quelques années est venu rencontrer ce bouillonnement intérieur, il est venu l'ancrer à travers l'oraison quotidienne, et voilà, ce qui était pour moi comme un rendez-vous espéré, voulu, mais comme le chantait Annie Cordy, je voudrais bien mais je peux point, c'est-à-dire je voudrais bien être davantage en communion avec mon créateur mais je n'y arrive pas, et bien à travers les exercices c'est venu s'ancrer dans mon existence d'une façon très singulière et évangéliser mes profondeurs. Ben, tout ça je le relie aussi à cette question du rapport à la mort, tout est lié.
J'aimerais pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause, pour finir cette deuxième partie d'émission, si vous le voulez bien, pour illustrer ce que vous venez de dire, que vous preniez l'exemple, soit qui vous concerne, vous en prenez pas, je crois pas à titre personnel, mais je me trompe peut-être, de mort heureuse. Voilà. Est-ce que la paix et la joie, mystérieusement, peuvent être concomitants à un deuil? Un enterrement, est-ce que c'est des choses que vous avez vues de vos yeux ?
Il y a tellement de situations Il y a la mort scandaleuse, celle qu'on ne peut pas accepter, celle que je raconte dans le livre avec cette cousine de 42 ans, fille de cette femme morte dans l'attentat du DC-10 du Théâtre, et comme si le destin s'acharnait contre cette famille, eh bien, à 42 ans, elle a laissé ses deux enfants et elle est décédée d'un affreux cancer. Et puis, il y a des morts, je dirais, qui sont celles de gens dont la vie est rassasiée de jour, pour paraphraser l'Ancien Testament. Rassasiée de jour, ça veut dire que, d'une certaine manière, la coupe était pleine, pleine de jours, pleine de souffrances peut-être aussi, mais il y avait quelque chose de l'œuvre accomplie. Bon, mais ça, il n'y a pas d'égalité devant la mort.
Alors, je vais préciser ma question, en fait, j'avais pas été assez précis peut-être, mais de toute façon, il était évidemment par délicatesse à l'égard de tout le monde mieux de rappeler ça, mais j'entendais au moment des funérailles, voilà, chacun a probablement des expériences de ça, mais tout le monde n'a pas toujours fait l'expérience de funérailles, on va dire, avec une joie particulière ou une paix particulière. Vous, c'est des choses que vous avez vues, j'imagine.
Alors, ceci dit, relier la façon dont on vit l'adieu à la façon dont les gens sont morts, ça a beaucoup de sens, n'est-ce pas ? L'âge du défunt, les conditions, les circonstances, mort violente, mort dans une fin de vie. Mais il n'en demeure pas moins que je sais pas si j'ai envie d'employer le mot miracle, mais enfin, la grâce, pour reprendre le thème du pèlerinage du rosaire, la grâce de tout adieu, c'est d'ouvrir potentiellement sur cette paix et une forme, oui, de, si ce n'est de joie, de complétude. Enfin, ce qu'il faut expérimenter, moi je le vis à côté des gens, c'est comment, après ces étapes successives, les gens sont rendus à une forme d'intensité de vie qu'on ne retrouve pas. Considérez ce qui se passe au moment des obsèques. Les gens se disent des mots d'affection. D'abord, ils se rassemblent, alors qu'ils sont souvent à distance les uns des autres, soit géographiquement, soit dans les relations. Et puis, il y a quelque chose qui se renoue à ce moment-là. Hein, on retrouve des gens dans ces circonstances. Et puis, on va se dire des mots d'amour. On va exprimer son affection. On va dire du bien. On va bénir, dire du bien. Bah, écoutez, moi, dans la vie, je ne connais pas de moment aussi fort, aussi intense que cela.
Vivre en mortel, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions Salvator. On fait une deuxième pause et on vous retrouve. Dans cette dernière partie, ce que je vous proposerais, c'est de nous prendre un peu par la main pour nos deuils, parce que au fil de votre ouvrage, on découvre quelques étapes à vivre, entre autres ce fameux adieu au visage.
Emmanuel Pella.
Vivre en mortel, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, et pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, je vous rappelle, nous sommes en direct depuis Lourdes à l'occasion du pèlerinage du Rosaire emmené par la famille dominicaine, et parmi les 10 000 personnes présentes, on en a trouvé une dans la foule qui a écrit ce livre, Christian de Cacré, je vous taquine, donc ce livre paru aux éditions Salvator. Alors à la fin de cette émission, j'ai picoré dans votre ouvrage quelques éléments pour nous aider à vivre la mort, à accompagner nos défunts. Le premier qui est un peu, on va dire un peu piquant quand même, c'est que vous dites que vous avez été attristé. Alors je ne sais pas si c'est le mot, mais vous parlez de mort autoréférentielle. Vous laissez entendre que parfois en fait les funérailles tournent beaucoup autour du défunt et que c'est pas forcément la meilleure manière de vivre la mort, si je vous lis bien.
Alors, en fait, il y a une chose qui est frappante aujourd'hui quand vous allez à des obsèques par rapport à ce qui se vivait, mettons, il y a 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que vous allez systématiquement assister à des prises de parole, n'est-ce pas ? Des témoignages personnels des proches. Ça n'a absolument rien de négatif. Simplement, ça dit quelque chose de très important, c'est que la dimension de la relation personnelle que chacun a eu avec le défunt est survalorisé par rapport à la proposition rituelle et liturgique ancestrale dans laquelle on oublie un peu la singularité du parcours de vie pour évoquer l'au-delà. Hein, la liturgie des obsèques, dans sa dimension en tout cas catholique, c'était vraiment... dire à travers des prières, etc.
On regarde plus en arrière, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage. On passe de regarder en arrière à aller de l'avant, quelque part.
Plutôt l'inverse.
Enfin, aujourd'hui, on est plus dans l'autoréférentiel. Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, on est davantage dans les souvenirs, ce qu'il a été pour moi. Alors, qu'est-ce que ça pose, par contre, comme problème ? C'est que, a priori, tout le monde pourrait potentiellement avoir envie d'évoquer sa relation singulière avec le défunt. Donc il y a une question qui passionne certains anthropologues, etc., c'est de dire, oui, on voit bien que dans cette modalité rituelle, il faut arriver à désigner quelqu'un qui soit un peu le médiateur pour évoquer toutes ces dimensions personnelles. Et puis effectivement, se pose aussi une question essentielle, c'est à quel moment, au milieu de tout ça, qui donc encore une fois est plus dans l'anamnèse de cette existence vécue ensemble, à quel moment et de quelle manière va être posée une parole sur, et c'est pour ça qu'on est réunis à toute cérémonie d'obsèques, mais où est-il ? Qu'est-il devenu ce mort ? On ne peut pas éluder cette question. La question de l'au-delà, au-delà de ce que nous sommes là, à ce moment présent autour de ce corps, en évoquant ce qu'il a été pour nous, l'au-delà de ce temps, l'au-delà de cette vie, reste parfois tue ou mal comprise. Et c'est toute la difficulté des gens qui accompagnent les liturgies d'obsèques dans les paroisses, c'est d'arriver à trouver les mots pour exprimer ce que l'Église vit, annonce et j'allais dire a de meilleur. Enfin, la révolution chrétienne, c'est la résurrection du Christ. Et ben, croyez-moi, il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui à annoncer.
Alors, on va dire ça, c'est comme un préambule. J'aimerais maintenant que vous me parliez de l'adieu au visage. C'est une expression. Je ne sais pas d'où vous la tirez, vous allez nous le dire. Et pourquoi c'est si important à vivre ?
Je la tire simplement d'un constat, c'est que quand on est après la mise en bière et dans l'attente de la fermeture du cercueil, on ne voit que le haut du corps. Et que, en plus, ça a tout à fait son sens que ce soit ce visage que nous regardions, parce que là, je vous regarde dans les yeux, c'est votre visage que je regarde, pas vos mains ou vos épaules. Bon, donc il y a quelque chose de l'ordre de ce face-à-face qui s'exprime encore à ce moment-là. Et puis, alors ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement précieux, c'est le moment où, étant dans la conscience physique, parce que les gens touchent les morts, ils les embrassent, étant dans la conscience physique que la vie a quitté ce corps, s'ouvre alors la possibilité, je dis bien la possibilité, de passer d'une relation dans l'ordre de la chair à une relation dans l'ordre de l'esprit. c'est un peu des grands mots, mais ça a une réalité ô combien incarnée, et je parle pas là d'un effet comme ça qui va sur un claquement de doigts se réaliser, mais qui est une ouverture possible, un appel à cette ouverture qui se vit avec une intensité particulière. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'accès à la vie spirituelle est souvent entravé par toutes sortes de choses qui nous étourdissent, qui nous occupent l'esprit, toutes ces images et ça. Devant le corps d'un être aimé qui est à quelques minutes de disparaître à nos yeux, je crois que vraiment l'être humain peut vivre cette scène fêlure, brisure, dans cette carapace, j'allais dire, qui le retient hors de cette dimension spirituelle, une vraie fêlure qui peut être pour l'avenir d'abord une façon de vivre avec ce mort dans la durée. Hein, si ce qui se localisait dans la chair se localise dans l'esprit, alors à tout moment, on pourra solliciter ce défunt. Et vous connaissez comme moi, ou vous êtes vous-même peut-être dans cette réalité, des êtres humains qui reçoivent, et Marie de Wenzel vient d'écrire un livre là-dessus d'ailleurs, vivent avec l'invisible. Et c'est pas de l'occultisme, c'est de la communion des saints, ça a tout à fait son sens.
D'ailleurs, vous avez une expression à un moment, je ne retrouve pas exactement la citation, mais vous dites que le royaume, ce qu'on appelle le royaume chez les chrétiens, souvent se mêle tout à la fois l'ici-bas et le là-haut. C'est ce qu'on peut comprendre.
Chaque fois que le Christ en parle, il parle
Là, c'est un ici-bas très, très difficile, mais en fait, c'est celui qui peut ouvrir mystérieusement à là-haut, c'est ça?
Complètement. Et de ce point de vue-là, je renvoie les auditeurs, bien sûr, à la visite, enfin, le texte dans l'évangile de Saint Jean où il est relaté la visite de Nicodème, un notable des Juifs qui va prudemment, nuitamment visiter Jésus sans qu'on le sache trop, mais qui va chercher le sésame, c'est-à-dire les clés du royaume, j'ai envie de dire. Et que lui répond le Christ? Il lui répond nul ne peut accéder à ce royaume s'il ne naît à nouveau. Il parle d'une seconde naissance. Et ça, c'est capital, c'est essentiel. Et c'est là que la question de la mort vient en résonance avec l'ici-bas et l'aujourd'hui. C'est-à-dire, si je m'ouvre davantage à cette communion avec tous ceux qui m'entourent, le monde et Dieu, eh bien, je peux naître à nouveau, je peux faire grandir en moi cet autre qui n'aspire qu'à ça et qui est le divin.
Alors, avant de parler d'un de vos chapitres, pour finir, qui s'appelle « L'héritage intérieur », j'aimerais que vous nous parliez des agents funéraires. Voilà, vous dites « Je connais peu de positions aussi ingrates que celle de l'agent funéraire ». Il y a comme un hommage invisible aussi au long de votre ouvrage à ce métier, bien difficile, qui en plus prend de plus en plus d'importance justement dans les rites funéraires. C'est pas toujours facile pour la famille d'accepter, mais en fait, ce qu'on voit pas souvent, c'est que de l'autre côté aussi, c'est pas simple. Et c'était un grand et beau métier à vous entendre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus?
Vous savez, moi, il y a une chose qui aurait motivé pour moi l'abandon de cette activité. Il y en a une seule, je vais être très, très rude. C'est la dimension de la médiation administrative. C'est terrible de dire ça. Mais je vous assure que, alors que nous sommes convoqués dans la relation avec les familles vraiment à de l'empathie, un vrai désir de servir, souvent ce désir se brise sur l'incroyable complexité, et pas tant du point de vue, je dirais, des démarches telles qu'on peut les lister, mais du point de vue de ce terrain chaotique où nous rencontrons des gens qui ne sont pas au diapason de cette compassion. Je vous donne un exemple très concret pour ne pas partir dans des choses trop théoriques. Lorsque nous demandons l'inhumation dans un caveau, on demande de plus en plus la reconnaissance des droits. Bon, c'est-à-dire, au fond, que la personne qui demande à inhumer, mettons, son père dans un caveau familial, nous prouve, nous, administration, quel est son lien avec le concessionnaire. Donc déjà, quand la tombe remonte au 19e siècle, comme ça arrive dans les cimetières parisiens notamment, je vous assure que ce n'est pas simple. Et derrière ces règles, il y a une espèce de dureté, qu'on pourrait appeler une rigueur, mais en même temps, une rigueur qui tourne à un déni d'humanité. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'épouvantable.
Et c'est ça la difficulté ou le côté ingrat du métier d'agent funéraire?
Notamment.
D'accord.
Ouais, ouais. Oui, vraiment, je vous assure, moi, j'en désespère parfois, j'en rage, et je ne comprends pas comment nous ne sommes pas davantage dans une empathie. Alors, je comprends que la prévention des risques, je sais plus quelle est l'expression exactement, qui dit pour ne prendre aucun risque, qui serait que un membre d'une famille conteste, etc. Et c'est vrai qu'il y a des querelles au sein des familles. Je comprends qu'il faille faire attention à ça. Mais je vous assure que parfois, c'est à désespérer d'accompagner les familles en deuil, tellement le chemin critique sur le plan de l'organisation administrative et des droits, etc., est complexe.
Moi, j'imaginais aussi ceux qui sont présents lors des funérailles et qui accompagnent ou qui soulèvent le mort, enfin qui le soignent avant, qui le soulèvent ou qui accueillent les personnes, qui accueillent les familles. Parfois même, alors c'est probablement pas le cas au service catholique des funérailles, mais qui conduit la cérémonie. Ça aussi, c'est un métier ingrat. Pourquoi est-ce que c'est un métier ingrat ? Parce qu'il n'est pas si facile que ça tous les jours de quand, bien le faire.
Quand on est sur le terrain en sympathie, en empathie avec la famille, c'est du bonheur. Parce que nous, on sait que ce qu'on vit à leur côté va leur faire du bien. On le sent charnellement. Donc, c'est pas là que se situe la pénibilité. Bon, il faut garder la fraîcheur relationnelle pour ne pas se laisser submerger par la répétition et donc la lassitude. Mais globalement, quand on sait le cadeau que va représenter pour les gens qui vont le vivre, ce parcours rituel, il n'y a aucune raison de déserter ce terrain-là, au contraire.
Alors, si on reprend ce bref parcours que j'avais proposé à aider par la lecture de votre ouvrage pour tout un chacun, donc on va dire faire en sorte de pas être trop autoréférentiel au moment des funérailles, voilà, d'avoir un regard un peu porté vers l'au-delà, passer par l'adieu au visage, se dire que vous avez bien du mérite quand on fait appel à vous. Je m'étais noté deux choses, mais je crois qu'on n'aura pas le temps pour les deux, alors je vais vous laisser choisir. Je voulais m'arrêter sur ce chapitre, l'héritage intérieur, c'est une expression que vous reprenez d'un prêtre, sauveur de ma part, d'un prêtre canadien, Jean Montbourquette. Mais vous parlez aussi un peu plus loin du pardon. Donc je vous laisse choisir.
J'aime beaucoup cette notion d'héritage intérieur. C'est-à-dire que je trouve que la psychologie du deuil a souvent mis l'accent sur le fait que, d'une certaine manière, un deuil ne se termine jamais. Ça nous renvoie aussi au retournement des morts et au constat physique qu'il y a un jour où il n'y a plus rien dans le cercueil. Eh bien, il y a un jour où c'est pas du tout l'oubli, la fin du deuil. C'est au contraire l'intégration, c'est faire sien le meilleur de ce que nous avons reçu du défunt. Donc l'intériorisation de son héritage spirituel. Et dire que cette étape-là, d'abord, elle est ouverte à tous. Moi, je le crois profondément. Il y a dans ma vie, dans ma famille, des personnes qui, d'une certaine manière, vivent en moi dans la mesure où ce que j'ai admiré en eux, ce que j'ai goûté de leur belle humanité, je l'ai fait mien. Ou en tout cas, j'ai essayé de le faire. Voilà en quoi je peux dire qu'ils vivent en moi. Donc, cette notion de l'héritage spirituel par ce père Montbourquette marque pour moi, exprime pour moi de façon très pertinente l'étape ultime du deuil. Et
c'est un travail, parce que lui, il a cette expression, vous le citez, « Si tu poursuis ton deuil jusqu'à la prise de possession de l'héritage, tu seras habité d'une nouvelle présence reconnaissable à la joie, à la paix et à la liberté. » Il parle de prise de possession de l'héritage.
Oui, parce que rien n'est automatique, rien n'est subi, tout doit être désiré. Je parlais tout à l'heure de cette mutation de la relation de la chair vers l'esprit. Bah, on peut, au contraire, se détourner de la mémoire douloureuse d'un proche, parce que voilà, on n'est pas dans quelque chose de subi. Le travail de deuil, tel que on l'a compris trop souvent, c'était un peu comme une espèce de digestion psychique. Voilà, il faut que tu fasses ton travail de deuil, sous-entendu, ne nous embête pas trop et fais ton truc dans ton coin. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Le travail de deuil, c'est un enjeu collectif qui est lié à l'interaction entre les êtres et qui va, sur ce chemin-là, solliciter notre souhait, notre désir, j'allais dire, notre volonté. Est-ce que je veux être l'héritier de ce défunt que j'aimais ? Et si oui, de quelle manière ? Qu'est-ce que je vais fructifier en moi de cet héritage, je répète, spirituel ?
Et donc ce qu'on entend pour finir peut-être, c'est que vous dites que ce n'est pas un travail à faire seul aussi.
Du
tout.
Vous
que c'est un travail collectif.
Il n'y a pas de deuil
familial,
solo,
voire élargi.
Le deuil, c'est sollicite la relation aux autres. L'endeuillé a besoin de parler aux autres de sa peine. Les autres ont besoin d'entendre ce qu'il vit. Et ensemble, on a besoin de réorganiser les chevaux relationnels sans la personne qui est décédée.
Eh ben, merci beaucoup, Christian de Cacré, d'avoir fait un détour par nos studios de Radio Présence à Lourdes. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Vivre en mortel. C'est paru aux éditions Salvator. Merci.
Merci.
À la technique, Christophe Aubry, vous pourrez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain encore à Lourdes. Thank you.